Bonjour, c'est Marie Lalande au micro d'Imagémo à voix haute, épisode du 7 avril 2024. Aujourd'hui, en deuxième partie d'émission, à Dis-moi ce que tu lis, on rencontre trois enseignantes de l'école Sainte-Colette à Montréal-Nord pour parler de leur projet, entre autres de leur projet de Kamishibai. Marie Barguirdian et Mathilde Routy nous présentent leur chronique littéraire « Raconte-moi une histoire » à propos de l'album « La pyramide de Nola » de Marie Barguirdian, justement. Et on terminera l'émission avec les actualités littéraires. Mais d'abord, en première partie, je reçois dans les coulisses du livre Françoise Armand, professeure titulaire émérite de la Faculté des sciences de l'éducation de l'Université de Montréal au département de didactique et conceptrice du programme Élodile. Catherine Chiasson de la librairie Le Renard Perché nous propose ses coups de cœur de libraire en lien avec l'accueil, la bienveillance et le respect des autres. Encore une fois, tout plein de livres et de choses à découvrir sur la littérature jeunesse.
Je m'appelle Théo Lemay, j'ai 11 ans. La série que je préfère, c'est Bin de Daniel Brouillette parce que je me retrouve dans le personnage, la série est drôle et il y a des amis à d'autres écoles.
Allô, je m'appelle Samuel, j'aime beaucoup Alexa, l'auteur, parce que ses livres sont drôles, puis ses dessins, c'est genre vraiment wow, puis la Jean-Jean, ben, c'est vraiment drôle aussi. Là.
Dans les coulisses du livre.
Dans les coulisses du livre, c'est le moment de l'émission où on rencontre des gens qui font les livres jeunesse ou des gens qui gravitent autour du monde des livres. Aujourd'hui, on rencontre une personne qui a œuvré toute sa vie pour favoriser l'apprentissage du français langue seconde par les élèves allophones issus de l'immigration et l'ouverture à la diversité linguistique et culturelle chez tous les élèves. Bonjour Françoise Armand.
Bonjour chère Marie.
Bienvenue à Imagine-moi voix haute. Françoise, j'aimerais prendre le temps de vous présenter aux auditeurs et je vais tenter de le faire brièvement. C'est un beau défi parce que je veux absolument vous laisser la parole le plus possible, alors on va résumer. Vous êtes depuis peu à la retraite, vos passions occupent donc plus de temps dans votre vie. Vous étiez professeur titulaire à la Faculté des sciences de l'éducation de l'Université de Montréal, au département de didactique. Vous avez formé et accompagné un grand nombre d'étudiants et d'étudiantes, de conseillers, de conseillères pédagogiques et publié plusieurs ouvrages et publications scientifiques à propos des thèmes de recherche qui vous sont chers. Je les nomme didactique des langues secondes, plurilittératie, plurilinguistique, éveil aux langues et ouverture à la diversité linguistique, de même que la lecture et l'écriture en langue seconde pour les nouveaux immigrants au Québec et les différents modèles de services d'accueil et de francisation. Vous êtes conceptrice et toujours co-responsable depuis 2014 du site Élodile. C'est un acronyme, ça veut dire éveil au langage et ouverture à la diversité linguistique. Plusieurs prix soulignent l'excellence de votre carrière, le prix d'excellence en enseignement en 1999, le prix ACFAS Jeanne Lapointe en 2020. Et on vous a décerné l'Ordre des francophones d'Amérique en 2022. Bravo! Qu'est-ce qui vous a motivé, Françoise, à vous intéresser à l'apprentissage des langues et au plurilinguisme?
Merci pour cette belle question. Et avant tout, chère Marie, merci d'animer cette émission qui est extrêmement précieuse pour revaloriser sans fin les livres qui sont si importants dans l'éducation et dans notre société. Alors, en lien avec votre question, la motivation... Fondamentalement, c'est que je suis habitée d'une curiosité sans fin pour le phénomène langue, le langage, cette capacité exceptionnelle de l'humain à communiquer, à développer une pensée complexe, à garder des traces sous forme de récits oraux ou écrits, capacité aussi à transmettre des connaissances, des savoir-faire, génération après génération. Nous n'avons pas à réinventer l'art de faire le feu grâce au langage. Nous sommes des êtres de parole, plus que jamais avec les réseaux sociaux. Et ça, on va peut-être l'ajouter, c'est peut-être pour le meilleur et pour le pire,
oui,
quant à notre capacité de développer un dialogue constructif et authentique. Plus précisément, ma motivation pour le plurilinguisme, elle est liée avec la rencontre avec l'autre. La rencontre avec l'autre avec un grand A. Je rappellerai qu'il y a plus de 6000 langues sur Terre. Quand on parle de plurilinguisme, on aime ça parler, les humains.
Oui.
Et cet intérêt pour le plurilinguisme, eh bien, il est très présent au milieu scolaire. On le sait, les écoles, notamment dans le Grand Montréal, il y a beaucoup d'élèves qui parlent un grand nombre de langues. Je pense que nos enseignants vont le rappeler dans le segment suivant de votre émission. Mmh. Et mon premier emploi était d'orthopédagogue dans la ville de Toulon, dans le sud de la France. Et c'était majoritairement fréquenté par des élèves issus de l'immigration, donc qui parlaient différents arabes, mm-hmm. tunisiens, marocains, algériens. À l'époque, j'étais perturbée parce qu'une partie du personnel scolaire dénigrait les langues arabes, les langues maternelles de ses élèves, ce qui suscitait des tensions et perturbait le climat de l'école. Mm. À l'inverse, on était plusieurs intervenants, intervenantes, à souhaiter la mise en œuvre d'une éducation inclusive, ce qui nous menait à reconnaître l'existence de ces langues maternelles et à combattre une forme de racisme au sein de l'école.
Oui, il faut le dire.
Mmh. Donc, cet engagement dans mon métier, cette curiosité pour le phénomène langue m'ont amené à réfléchir dans le cadre de mes fonctions de professeur et de formateur de futurs enseignants et enseignantes au Québec, à réfléchir aux meilleurs modèles pour soutenir l'apprentissage du français langue seconde, mais plus largement pour soutenir une éducation inclusive au sein de notre système scolaire québécois. Et ça passe par la valorisation d'une approche équilibrée de l'enseignement du français. Ça passe par la mise en place d'activités d'éveil aux langues et d'approches plurilingues.
Alors, est-ce qu'on peut justement préciser de quoi il s'agit?
Avec plaisir. Avec grand plaisir. Quand on évoque l'idée d'une approche équilibrée de l'enseignement du français langue seconde pour les élèves issus d'immigration qui développent leur bi-plurilinguisme, bien ce qu'on met de l'avant, c'est l'idée qu'on va mettre en place dans les classes des pratiques stimulantes, significatives de l'enseignement du français. On va les mettre en action, on va leur faire vivre des situations qui vont leur donner le goût d'apprendre le français avec les meilleures pratiques pédagogiques mises en valeur par la recherche notamment. Mais si on met de l'avant le français, on ne va pas le faire au détriment de la reconnaissance et de la légitimation des langues maternelles présentes chez ces élèves. Donc quand on parle d'approche équilibrée, c'est mettre l'accent sur l'enseignement-apprentissage du français, tout en valorisant et en légitimant et en utilisant les langues maternelles, le bagage linguistique de ces élèves. En d'autres mots, s'appuyer sur le déjà-là pour bâtir, pour apprendre une langue en plus et mettre en place ce qu'on appelle un bilinguisme additif, apprendre donc une langue en plus, non pas au détriment de la langue maternelle.
Mais en plus, parce que par exemple, ils ont des stratégies de lecture dans leur langue, ils utiliseront les stratégies de lecture.
Exactement, la valorisation, la mise en place de cette approche équilibrée, elle est fondée sur la reconnaissance de l'existence des transferts, mm-hmm. ce que vous évoquez à l'instant. Si je suis un lecteur expert dans ma langue maternelle, eh bien à un moment donné, si je suis autorisée à le faire, je vais pouvoir revenir à mon expertise en langue maternelle pour la transférer dans la langue seconde.
C'est superbe. Donc, on va parler de l'approche Élodile. Qu'est-ce qu'on peut trouver sur le site Élodile et ça s'adresse à qui?
Alors, le site Élodile, il est fondamentalement et avant tout, puis je vais beaucoup insister là-dessus, sur de multiples collaborations avec des gens dynamiques, passionnés, compétents, conseillères pédagogiques, enseignants, cadres scolaires, qui ont permis de produire à travers de nombreuses recherches-actions, des outils de diffusion des bonnes pratiques pédagogiques. Donc, ça s'adresse à tous les enseignants et enseignantes qui ont à cœur le développement langagier de leurs élèves et, encore une fois, plus largement, dans un contexte de prise en compte de dimensions interculturelles, de mise de l'avant d'une éducation inclusive. Donc, qu'est-ce qu'on va trouver sur ce site Élodile? Des vidéos pédagogiques qui on parle de l'enseignement, apprentissage, de la lecture, de l'écriture, de l'oral, des vidéos pédagogiques qui mettent de l'avant les activités d'éveil aux langues. Mm-hmm. Donc cet éveil aux langues, c'est permettre aux enfants de découvrir la diversité des langues, de les mettre en contact à l'oral et à l'écrit avec cette diversité des langues et leur faire réaliser différentes activités avec cette diversité linguistique.
Mm-hmm.
Donc, sur ce site, des vidéos pédagogiques, des guides pédagogiques, encore une fois, réalisés, mis à l'essai dans le cadre de collaboration avec les milieux de pratique. On trouve aussi des rapports de recherche, des articles, des instruments de diffusion. On trouve aussi une très belle section sur la littérature de jeunesse avec des bibliographies qui portent sur éducation inclusive et littérature jeunesse, le racisme, le rejet. Donc tout ce qui concerne tout ce qui va soutenir la mise en place d'une éducation, encore une fois, inclusive dans nos systèmes scolaires.
Donc si je comprends bien, c'est davantage pour les enseignants.
C'est pour les enseignants, mais en même temps, on a réalisé tellement de belles vidéos avec, évidemment, les enseignants, les élèves et leurs parents, qu'on sait que les vidéos, elles sont aussi regardées dans les milieux familiaux.
Oui, aussi dans les familles.
Dans les familles.
Oui, vous en avez parlé tout à l'heure. Plusieurs de vos recherches ont été faites de manière collaborative, liant les enseignants sur le terrain, les chercheurs, les chercheuses du monde universitaire. Pourquoi vous teniez à ça?
J'ai profondément la sensation qu'on ne peut pas parler de recherche sans parler en milieu d'éducation, sans faire de la recherche collaborative. Que valent des grandes recherches qui ne sont pas en contact avec la réalité des milieux, ouais, avec une contextualisation, avec l'expertise des enseignants? Il y a combien de fois on peut arriver dans une école avec une certaine idée d'une pratique qu'on pourrait mettre en place, et dans la discussion, dans les échanges avec les enseignants, on la modifie, on la nuance, on l'adapte. Alors je crois profondément à ce regard croisé qu'on peut avoir entre les chercheurs et les enseignants.
Et c'est parce que les chercheurs font ces recherches que les pratiques enseignantes changent aussi. Ça va dans les deux sens.
Ça va tout à fait dans les deux sens. Mm-hmm. J'ai un profond respect du métier enseignant. Moi-même, j'étais 10 ans enseignante, puis orthopédagogue. Le terrain a une expertise et c'est la meilleure façon, c'est vraiment de faire ce dialogue avec la recherche.
Tout à fait. Vous avez tout récemment réalisé une recherche-action au préscolaire en utilisant des albums plurilingues Élodile. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus?
Comment dirais-je? Avec quel plaisir je vais en parler. C'est effectivement mon dernier bébé avant de partir à la retraite. Vous avez mentionné mon départ à la retraite. Alors ce projet-là, c'était un projet de cœur. C'est au départ, justement, quand je travaillais comme orthopédagogue dans les milieux défavorisés de la basse ville de Toulon, c'est comme ça qu'on l'appelait, je voyais à quel point c'était nécessaire de soutenir l'entrée dans l'écrit chez les jeunes enfants en leur permettant de recourir encore une fois à leur langue maternelle. Mm-hmm. Donc le projet fondamentalement, c'est de donner le goût de la lecture, de faciliter l'apprentissage de toutes ces habiletés qui vont soutenir l'entrée dans l'écrit, mais dans plusieurs langues. Donc le projet des albums plurilingues Élodie, ça consiste en quoi ? C'est 11 albums de deux maisons d'édition québécoises, et je souligne la qualité de la collaboration que j'ai pu établir avec les 400 coups et la courte échelle. Mm-hmm. Donc 11 albums écrits en français que nous avons placés dans une application, donc visible sur un écran de téléphone, sur le TBI en classe, etc. Et chaque page, chaque double page de l'album s'affiche, et vous avez accès à un menu déroulant où chaque segment... Chaque segment visible sur le TBI, sur l'écran, a été traduit dans 22 langues. Un travail de moine.
Oui.
Donc, ce sont les principales langues de l'immigration, les principales langues dans les quartiers où nous avons travaillé, dans Parc Extension, et aussi, par respect pour l'histoire profonde du Québec, de langues autochtones. Mmh. Donc, on a accès à l'écrit à 22 langues traduites dans le menu déroulant. Et pour cet album, on a accès aussi à des enregistrements audio. Donc, c'est un lieu pour explorer la diversité. C'est un lieu pour entendre des multiples langues autour de ces albums.
Et donc, tout le monde peut avoir accès à ça?
Effectivement, depuis 2 ans maintenant, ces albums sont disponibles dans le cadre du projet Biblius, qui est financé par le ministère de l'Éducation, qui est une plateforme de prêt numérique de littérature jeunesse. Et donc, ces albums, dans leur version plurilingue, sont accessibles gratuitement dans toutes les bibliothèques scolaires du Québec pour les enseignants, les enseignantes, les enfants, leurs familles.
Dans les classes.
Dans les classes, donc, mais aussi dans les milieux familiaux, dans les milieux familiales.
Oui, qui a un lien avec l'école, en fait.
Oui, et il faut savoir que le dernier bilan de Biblius montre que ces albums sont parmi les plus empruntés, avec un record, Je suis terrible, de Élise Gravel, qui a été emprunté 9000 fois la première année. Dans sa version, encore une fois, dans sa version plurilingue.
C'est fabuleux. Qu'est-ce que vous voudriez dire, Françoise Armand, aux décideurs préoccupés par l'avenir du français au Québec et les politiques d'immigration?
Toute une question. La première chose fondamentale, c'est de croire au désir de ces immigrants de participer à la vie collective québécoise et de faire confiance à leur désir pour cela d'apprendre le français. considérer aussi que le plurilinguisme, c'est une richesse. Éviter à tout prix des approches coercitives de l'apprentissage du français. J'ai connu des temps ou des écoles où les enfants étaient punis dans les couloirs ou la cour de récréation s'ils parlaient dans leur langue maternelle. Ouais. Je rappelle par ailleurs que la cour de récréation ou les couloirs ne sont pas des moments d'enseignement et qu'on a le droit d'échanger quelques mots sur sa vie privée, personnelle, etc. Le français, on parle d'une langue commune de la vie publique qu'il faut valoriser. Hein. Encore une fois, je réinsiste sur l'importance de valoriser le français dans notre société québécoise, mais pas au détriment de cette ouverture à la richesse du plurilinguisme. Mmh. Alors, le message, et c'est passé dans plusieurs textes officiels du ministère, hein. Le dernier programme du préscolaire souligne l'importance de la reconnaissance des langues maternelles des élèves, souligne l'importance de faire des liens entre le bagage linguistique et l'apprentissage de la nouvelle langue.
Mm-hmm. François, c'est la tradition à Images et mots à voix haute. On demande aux invités de nous proposer un de leurs coups de cœur littéraire jeunesse. En terminant, est-ce que vous avez une suggestion pour nous?
Alors, je crois que je vais reprendre un terme qu'on utilise en ce moment. Je crois que je suis polyamoureuse. Très difficile d'avoir un coup de cœur.
Oui.
Alors, quand on a fait le choix de ces 11 albums, on est allé par coup de cœur, évidemment. Les 11 albums qui sont sur la plateforme Biblius, les albums plurilingues et l'Odile, ce sont des albums qui traitent de la différence, du rejet, du vivre ensemble, qui abordent aussi des dimensions culturelles de la vie québécoise. L'hiver, par exemple.
Oui.
Alors, parmi ces albums-là, ben, je les aime tous, c'est évident. Donc, je serais heureuse que la liste soit affichée sur le site de l'émission.
On va le faire avec plaisir.
Je vais juste peut-être les mentionner. L'ours brun qui voulait être blanc. Donc, c'est l'histoire d'un ours brun qui découvre que tous les ours ne sont pas bruns, mais qui se fait accepter par une communauté d'ours blancs. Poil aux pattes, c'est une pauvre petite grenouille, Gertrude, qui a du poil aux pattes, qui se fait harceler, on se moque d'elle, mais qui finalement découvre l'amour avec un crapaud rose, la petite feuille jaune, très poétique, qui évoque la vie, le périple d'une petite feuille différente des autres, qui se fait rejeter, mais qui finalement devient le trésor d'un enfant. Quoi d'autre?
Il y en a 11 finalement.
Il y en a 11. Oui. Et puis, je voudrais peut-être aussi évoquer Les quatre petits coins de rien du tout de Jérôme Ruyer, qui grand classique du vivre ensemble.
Oui, tout à fait. On a fait, Mathilde Routy, on a fait une chronique à Raconte-moi une histoire.
Avec raison.
Très, très bon. C'est vrai que c'est un très bon livre. Et on va retrouver les 11 titres sur le site de l'émission. Françoise, d'abord, je vous remercie pour la droiture, la bienveillance, l'ouverture d'esprit, pour tous ces pas que vous faites faire aux gens dans les milieux scolaires, pour mettre en place les conditions gagnantes d'un apprentissage réussi de la langue de scolarisation et pour valoriser une éducation inclusive. Vraiment, un grand, grand merci.
Alors, je me permettrai de relancer ce merci à toutes les personnes avec qui j'ai collaboré, avec un grand clin d'œil pour la relève, c'est-à-dire Catherine Ménard, Catherine Gosselin-Lavoie, Marie-Paul Laurie, qui sont des professeurs qui poursuivent le travail Élodie, le travail éveil au langage, ouverture à la diversité linguistique.
Merci Françoise.
Merci.
Je m'appelle Amiel et j'ai 11 ans. J'adore lire des romans parce que ça dure très longtemps et que j'aime ça chausser les chaussures des personnages facilement.
Je m'appelle Adélia, j'ai 10 ans et j'aime lire parce que ça, quand je lis, ça me sort souvent de l'ordinaire et j'ai ma bulle en moi. Donc quand je lis, j'ai comme l'impression que je ne peux plus m'en sortir.
Je m'appelle Alexis, j'ai 11 ans. J'aime lire des livres de hockey parce que je suis beaucoup passionnée.
La chronique coup de cœur des libraires.
Aujourd'hui, c'est Catherine Chiasson de la librairie Le Renard Perché qui nous présente ses coups de cœur de libraire. Bonjour Catherine.
Bonjour Marie.
Enchantée de vous recevoir à l'émission.
Ben, pareillement, puis merci d'avoir insisté pour que je vienne à l'émission.
Oui, go, go, go. En quelques mots, Catherine, qu'est-ce qu'on peut dire de votre charmante librairie Le Renard Perché?
Bien, Le Renard Perché, c'est un rêve qui est devenue une réalité. C'est une librairie spécialisée en littérature jeunesse où on fait vivre autant la littérature de petits que la littérature de grands lecteurs. C'est un endroit où on lit, c'est un endroit où les enfants se sentent à la maison, puis c'est un endroit où ben, nous, chaque jour, on évolue de manière excessivement heureuse.
Oui, hein, puis ça paraît. On sent ça quand on est chez vous. C'est sur la rue Ontario,
c'est
à Montréal.
C'est sur la rue Ontario à Montréal, exactement, dans le quartier Hochelaga-Maisonneuve.
Voilà. Catherine, vous nous parlez aujourd'hui de vos coups de cœur de libraire, des livres que vous avez choisis en lien avec l'accueil, la bienveillance, le respect des autres. On vous écoute.
Merci Marie. Alors, je commence sans plus tarder avec « J'aime pas ta robe » de Daniel Chaperon et Samuel Quentin aux éditions Monsieur Ed.
Ouais.
C'est un livre qui va raconter la rencontre entre deux personnages, donc un jeune garçon et une jeune fille, et ça montre toute la maladresse des enfants à entrer en communication. Donc, c'est un album où on va commencer avec le titre « J'aime pas ta robe », ben moi j'aime pas telle affaire, moi j'aime pas ci, moi j'aime pas ça, et ça va escalader jusqu'à ce que finalement les enfants se rendent compte qu'ils voulaient peut-être moins se chamailler que finalement devenir amis et se rencontrer. Donc, c'est un album qui parle dans la langue des enfants. C'est Daniel Chaperon qui l'a écrit, qui est une ancienne enseignante du primaire.
Qu'on a reçu en entrevue.
Oh, que j'adore. En fait, Daniel, je lui répète toujours que quand je vais vieillir comme Daniel. Sauf qu'elle a un imaginaire très, très proche des jeunes. Et c'est un peu ce langage-là que j'aime dans J'aime pas ta robe. C'est cette écoute-là aussi, cette extravagance-là des enfants qui vont aller... C'est ça, qui plonge dans l'imaginaire complètement pour finalement revenir sur Terre.
Puis c'est intéressant parce que c'est une bande dessinée, en fait. C'est Samuel Quentin, l'illustrateur BDiste.
Oui, c'est sa première... en fait, c'est sa première incursion dans le monde de la littérature jeunesse.
Ouais.
Puis je parie que ce n'est pas sa dernière.
Une belle réussite,
absolument.
Oui, tout à fait.
Je poursuis avec L'abri de Céline Claire et Chin Leng, qui est un album paru quand même il y a quelques temps chez Comme des Géants. Mm-hmm. On a eu la tristesse de le voir disparaître sur les tablettes quand même assez longtemps. Et là, il vient de revenir. Donc, c'est une belle manière de présenter la peur de l'étrangeté, donc de ce qu'on connaît pas. Mmh. On va se retrouver en pleine tempête. Il y a deux étrangers qui traversent la forêt et qui veulent trouver un endroit où se reposer et où se protéger de la tempête qui s'en vient. Et c'est Petit Renard qui va les apercevoir, qui va faire « Oui, mais là, si on va pas les aider. » Et là, il va sortir de sa tanière, va aller leur porter une lumière. Et de fil en aiguille, personne ne les accueille. Tout le monde a peur d'eux. Donc, on parle de xénophobie dans cet album-là. Mm-hmm. Jusqu'à ce qu'à la fin, ils se construisent leur propre abri. Et l'abri des renards vient à se briser. Et les renards partent à l'aventure. Ils vont voir la lueur au loin. Donc, c'est la lanterne que Petit Renard avait donnée aux deux étrangers.
Ouais.
Et les deux étrangers vont les accueillir le cœur grand et ouvert. Donc, c'est de se... c'est d'arrêter d'avoir peur de l'autre, c'est de s'ouvrir à l'autre, c'est de se dire, chaque personne peut nous apporter quelque chose. Donc, je trouve ça super important de l'aborder, surtout aux plus petits. Donc, je le vois peut-être en maternelle, je le vois en première année aussi.
Comme quoi, quand on donne, après, ça nous est redonné.
Absolument.
Ouais, c'est une belle...
C'est une belle leçon, en fait, cet abri-là, et illustré de manière magnifique par Ching Leng, qui va tout dans les petits détails magnifiques. J'adore.
C'est vrai, c'est très, très beau. Et le troisième?
Le troisième, Marie, c'est un coup de cœur de vie. En fait, c'est l'album que je propose à tout le monde. C'est l'album que, quand des gens viennent à la naissance d'un enfant pour un cadeau, par exemple, de baptême, c'est cet album-là qu'on veut mettre entre toutes les mains.
Oui.
C'est Oliver Jeffers qui l'a écrit, qui l'a illustré. Auteur-illustrateur qu'on adore, formidable. Absolument. Donc, il va autant dans le rigolo et de plus en plus dans l'engagé.
Oui,
on le voit
vrai.
Sur les réseaux sociaux, donc très, très proche de tout ce qui se passe à travers la politique internationale. Et dans Nous sommes là, c'est un hommage qu'il fait à la Terre. Donc, c'est en fait, il veut raconter qu'est-ce que la Terre à son jeune garçon qui vient de naître.
Ouais.
Et il va le raconter de manière brillante. On parle d'inclusion, on parle de respect autant des animaux, respect des êtres humains. On parle de faire attention, de prendre soin de nous parce que, en fait, si on se brise, ben, y a des morceaux qui repoussent pas. De prendre des notes pour les autres qui vont venir après nous, de respecter ou de prendre son temps. Donc, on dit « La vie va très vite, prends ton temps. » Et la finale de cet album-là m'a fait pleurer. Je dois avouer que je ne suis pas la personne qui pleure le plus en lisant des albums. J'ai des émotions, mais je ne les montre pas quand je l'ai lu, lui, que je suis arrivée à la fin en faisant « Et si je ne suis pas là? » Mais il y a une pléthore de gens qui vont pouvoir être là aussi pour t'accompagner dans cette vie-là.
Oh, wow.
J'ai eu les frissons.
C'est tellement touchant.
Oui, j'ai versé des larmes. Donc, c'est vraiment un album, encore une fois, sur l'inclusion. Et
c'est rempli d'espoir.
Ah, c'est rempli d'espoir, absolument.
Parfait.
J'ai le temps d'en présenter un quatrième.
Ben, un quatrième, un cinquième, un sixième.
Moi, j'adore ça. Moi, je peux continuer encore éternellement. J'avais trop de choix. C'est Le secret du rocher noir de Joe Ted Stanton, un autre illustrateur que j'aime énormément. Donc, qui, ici, va nous présenter une jeune fille dont la mère travaille sur les bateaux. Et elle interdit sa fille de monter sur ce bateau-là parce qu'au milieu de l'océan, trône le rocher noir. Donc, c'est une espèce de Frankenstein, un monstre dont tout le monde a peur. Et la petite fait « Mais moi, je veux monter sur le bateau. » Donc, petite téméraire, elle va se cacher, tomber à l'eau et découvrir que finalement, le rocher, c'est quelqu'un qui va abriter tous les animaux marins.
De l'océan.
De l'océan, exactement. Oui. Donc, c'est finalement quelque chose d'essentiel à l'écosystème marin. Donc, la petite va alors se mettre au devant des humains qui veulent détruire ce rocher-là. Donc, pour le protéger, pour prouver exactement.
Good.
Donc, j'ai vraiment adoré cet album-là qui est magnifiquement illustré. Donc, il y a des magnifiques doubles pages. C'est à découvrir.
Ouais, c'est beau.
Puis encore une fois, je trouve que c'est important aussi de laisser la parole aux enfants. Les enfants ont des choses à dire aux adultes, et je trouve ça important de les écouter. Ils en savent parfois plus que nous.
Tout à fait. On a encore le temps.
Ouais. Alors, j'hésite entre deux, mais je vais y aller avec le projet Barnabé parce que c'est un album des frères fans qui nous ont donné plusieurs albums magnifiquement illustrés. Juste par les illustrations, c'est un véritable chef-d'œuvre. Mais c'est aussi, en fait, un hymne à l'unicité. Donc, chaque être est unique. Dans ce projet Barnabé-là, malheureusement, eh bien, c'est un peu comme dans un magasin de jouets. Tout doit être pareil, tout doit être parfait. Si on n'est pas parfait, ben, on se fait reloguer au sous-sol où on est enfermé dans un petit cube ici de verre, dans un présentoir. Et cette journée-là, eh bien, Barnabé va décider que c'en est assez. Il veut sauver, il veut lui vivre la vie et découvrir l'extérieur. Il va faire la révolution avec les autres petites pièces uniques, en fait, qu'on appelle des ratés.
C'est ça.
Et il va partir à l'aventure et découvrir la vie. Donc, c'est encore plus merveilleux que, en fait, tous ces êtres humains, toutes ces petites bébites-là parfaites.
C'est un livre magnifique.
Ben, c'est un livre magnifique.
C'est un livre magnifique.
Oui.
Il y en avait d'autres qu'on mettra, hein,
absolument.
Catherine, sur le site de l'émission. On va retrouver tous les liens. C'était vraiment un grand, grand plaisir de vous recevoir.
Merci Marie, c'est un plaisir d'être avec toi.
À bientôt.
À bientôt.
Je m'appelle Chloé, j'ai 11 ans. Puis j'aime lire les livres qui font plus peur parce que je trouve qu'il y a plus d'action. Puis ben, dans les livres qui font un peu moins peur, ben, il y a pas assez d'action. Je m'appelle Aurélie, j'ai 10 ans. J'aime les livres de la catégorie 2 lunes de la collection Noire parce que j'aime le suspense.
On vous revient après cette courte pause. En seconde partie d'émission, je reçois trois enseignantes de 6e de l'école Sainte-Colette à Montréal-Nord pour parler de lecture et de leur projet de Kamishibai. On retrouve aussi Marie Barguirgian et Mathilde Routy avec leur chronique littéraire « Raconte-moi une histoire ». Aujourd'hui, elles parlent de l'album de Marie, publié chez Deux, « La pyramide de Nola ». Et pour terminer, il y aura des actualités littéraires. À tout de suite! On est de retour. Bienvenue en deuxième partie d'Images et mots à voix haute.
Dis-moi ce que tu lis.
Dis-moi ce que tu lis, c'est le moment de l'émission où on rencontre des gens qui lisent les livres jeunesse. Aujourd'hui, on rencontre des enseignantes qui lisent et qui font lire de la littérature jeunesse à leurs élèves de 6e année de l'école Sainte-Colette. Émilie Aumet, Catherine Vérardeau et Maude Laliberté. Bonjour à vous trois.
Bonjour. Bonjour.
Bienvenue à Images et mots à voix haute. Mesdames,
ben
ça me fait plaisir. Mesdames, votre école fait partie du Centre de services scolaires de la Pointe-de-l'Île. Émilie, tiens, commençons par vous. Qu'est-ce qu'on peut dire de l'école Sainte-Colette?
En fait, l'école Sainte-Colette, c'est une très belle école située à Montréal-Nord, dans laquelle il y a vraiment beaucoup d'élèves. Donc, on a deux bâtiments. D'un côté, en fait, on a les élèves du préscolaire et du premier cycle. Et de l'autre côté, on a ce qu'on dit les grands, donc le deuxième cycle et le troisième cycle. On est vraiment, comme je vous ai dit, une très grosse école. Il y a 43 groupes dans notre école et une très grande diversité. Donc, on a 11 classes d'accueil, des classes d'élèves qui ont un TSA. On a 3 classes de bain linguistique et même une classe pour les élèves qui sont dyslexiques, dysorthographiques. Mm-hmm. Donc, c'est vraiment un milieu qui est très diversifié. Mm-hmm. Et il y a des intervenants, en fait, là, en psychologie, en psychoéducation. Il y a vraiment beaucoup de diversité aussi au sein du personnel de l'école. Puis, il faut savoir aussi que c'est une école qui est très défavorisée. Donc, les écoles sont classées selon 1 à 10 en indice de défavorisation. Et la nôtre se situe sur l'échelle, dans le fond, au niveau 9 et 10, c'est-à-dire très défavorisée par rapport à d'autres écoles du Québec. Puis, ce qui fait la particularité de notre école, c'est vraiment une clientèle qui est plurilingue. Donc, dans des classes ordinaires comme les nôtres, on peut avoir des élèves, sur les 20 élèves qu'on a, on peut avoir des élèves qui parlent jusqu'à 14 langues maternelles différentes. Donc, c'est très riche aussi ça au niveau de la culture, au niveau des langues. Puis, il faut savoir que dans nos classes à nous, en fait, on est 3 classes ordinaires dans lesquelles il y a 20 élèves chaque. Donc, on est 60 élèves, là, nous, en classe régulière au 3e cycle.
D'accord. Et vous êtes toutes les 3 en 6e année, donc la 2e année du 3e cycle, c'est ça?
Exactement.
Oui. Ah, d'accord. Catherine, quand j'ai parlé hier avec votre... mais les jours précédents avec votre collègue Lucie Saint-Hilaire, qui est enseignante ressource chez vous pour l'enseignement du français et qui ne pouvait pas être avec nous aujourd'hui, elle mentionnait votre projet éducatif actuel qui met l'accent sur la lecture et la volonté d'utiliser la littérature jeunesse dans les classes. Catherine, donc, comment ça se vit concrètement, l'enseignement de la lecture dans vos classes à vous?
Donc, vous avez bien mis la table. La lecture est vraiment au cœur de nos choix de développement professionnel dans notre projet éducatif. Mais vraiment, concrètement, comment on intègre l'enseignement de la lecture en classe, c'est qu'on veut diversifier les dispositifs de lecture afin de permettre aux élèves de vivre vraiment différentes expériences littéraires. Et ce, autant pour les situations d'apprentissage que pour l'évaluation. Donc, on est loin de l'apprentissage classique de lecture de texte dans de recueils. On essaie vraiment d'intégrer la littérature sur jeunesse à notre enseignement. D'ailleurs, pour nous, la lecture, c'est vraiment synonyme de plaisir. Émilie et moi-même avons complété un micro-programme en enseignement de la littérature jeunesse. J'amorce mon 2e cette année. Alors vraiment, c'est des notions qu'on aime beaucoup enseigner, la lecture, à travers des dispositifs différents et amusants. Et nous avons fait le choix d'enseigner par thème à l'école pour favoriser l'acquisition du vocabulaire parce que c'est bien beau d'enseigner des stratégies de lecture, mais les élèves doivent être capables de comprendre les mots qu'ils lisent, de les acquérir aussi. Donc, en enrichissant le vocabulaire, on améliore assurément les habiletés en lecture des élèves.
Ah oui, c'est formidable ça. Vous parlez de dispositifs. Avez-vous un exemple de différents dispositifs pour les auditeurs qui connaissent moins ça?
Oui, donc on a la lecture interactive qui consiste à impliquer les élèves dans la construction du sens de l'œuvre. Donc, on lit des œuvres en avant de la classe et on pose des questions aux élèves pour qu'ils soient amenés à comprendre. On a la lecture en duo aussi, donc permettre aux élèves de lire des textes ou des albums à deux. La lecture à haute voix, la lecture feuilleton qui consiste un peu à la manière d'un roman télévisé, de lire quelques passages d'un roman au fur et à mesure de la semaine pour construire vraiment leur intérêt.
Ben c'est parfait, ça nous donne une idée beaucoup plus claire. Vous faites vivre un projet bien particulier à vos élèves actuellement. Ça s'appelle des kamishibai. Qu'est-ce que c'est, Maude, des kamishibai?
Le fameux kamishibai, c'est d'origine japonaise, premièrement. C'est une manière de raconter des histoires. Dans le fond, le mot kamishibai signifie théâtre de papier. Puis c'est un peu ça qu'on vient faire avec les élèves, du moins quand on en lit avec eux. C'est vraiment une histoire, un récit narratif avec des courts textes adressés principalement pour les enfants qui sont écrits sur des planches, donc comme sur des feuilles. On peut s'imaginer des feuilles de papier qu'on passe l'une à l'autre dans un petit théâtre de papier, donc dans un petit meuble de bois qu'on peut insérer les planches à l'intérieur. Ce qui donne un peu l'effet lorsqu'on enlève les planches d'une petite télévision qui présente les images aux gens à qui on le présente et la personne derrière qui raconte l'histoire a simplement le texte, dans le fond. C'est vraiment une façon différente de faire découvrir la littérature jeunesse aux élèves, encore une fois, qui est quelque chose qui est important pour nous. Ils trouvent ça très intéressant de voir ça. C'est différent. Puis, il y a un aspect plurilingue qui est vraiment important dans le kamishibai. Dans le fond, on retrouve plusieurs langues différentes dans les textes. On peut retrouver des personnages de différentes cultures qui vont parler dans leur langue maternelle, des langues qui peuvent être les langues des élèves ou d'autres. Donc, c'est vraiment quelque chose qui vient les motiver, qu'ils aiment beaucoup. Puis, on passe 6 semaines, nous, en classe, dans le fond, à découvrir, lire, et puis on crée aussi un kamishibai en bout de ligne avec les élèves.
Oh, c'est formidable! Et de quelle manière les kamishibai permettent-ils les liens entre la lecture, l'écriture, l'oral, Émilie?
Mais en fait, au même titre qu'un album, qu'un roman, qu'un documentaire, on peut le travailler de différentes façons, puis en fait, par sa nature même, le kamishibai, dans le fond, c'est écrit pour être lu et raconté. Donc, très certainement qu'on va travailler l'oral, puisque on va présenter nos créations. Ça peut être au petit, ça peut être... On va en parler un petit peu plus tard, mais il y a la présentation, dans le fond. Donc, on partage ça. Et nous, ça fait de belles observations, en fait, au niveau de l'oral. Puis, nous, en fait, on intègre dans notre kamishibai les mathématiques. Donc, c'est aussi interdisciplinaire. Il y a la lecture, l'oral, l'écriture, mais il y a aussi les mathématiques que nous, dans le fond, on a intégrées à la suite d'une recherche sur le kamishibai plurilingue et les mathématiques. Puis on travaille aussi beaucoup, dans le fond, dans l'écriture, la structure du récit en 5 temps, qui est vue, en fait, là, dans les années précédentes aussi. Mm-hmm. On travaille aussi beaucoup le vocabulaire à travers les kamishibai. Puis quand nous, on va l'écrire, bien, on va se baser sur le vocabulaire qu'on a lu dans d'autres kamishibai. Alors, c'est vraiment, tout est relié ensemble. Avec le kamishibai, c'est l'écriture, la lecture, de l'oral. C'est vraiment, là, tout lié ensemble.
Bien, c'est intéressant. Et donc, j'imagine que ça motive, ça rejoint vos élèves dans leur réalité, Maude?
Ça les motive assurément vraiment beaucoup. Puis je dirais que nous aussi, d'ailleurs, c'est vraiment un projet qui est intéressant à faire avec le plurilingue. C'est certain que de valoriser les langues maternelles des élèves, on le voit dans leurs yeux à quel point ça vient les toucher profondément. Mmh. De découvrir aussi les langues des autres élèves dans la classe ou d'autres langues qu'on n'a pas nécessairement vues ou touchées beaucoup. Donc ça, c'est sûr que ça vient vraiment faire une implication complète là, de leur part. Puis lorsqu'on vient pour le créer, ils sont assurément très motivés à faire tout ça. On les a déjà préparés aussi niveau motivation en 5e année. On a touché un peu au projet. On a créé une bande dessinée avec les élèves en instaurant un peu le principe de plurilingue, de mathématiques légèrement pour mettre la table pour la 6e année. Mm-hmm. Donc, en ce moment, ça fait 1 an qu'ils s'y préparent. Ils savent que ça s'en vient et ils sont très contents de pouvoir enfin créer le projet. De plus que les élèves présentement sont vraiment très intéressés par tout ce qui est manga, les animés et tout ce qui est un peu la culture japonaise en général, ça les touche beaucoup. Donc, quand on est arrivé avec ce projet-là, ils étaient vraiment contents.
Wow! Est-ce que vous avez des exemples de ce que vos élèves ont produit eux-mêmes? Est-ce que vous pouvez nous en lire quelques extraits, Catherine?
Oui, bien sûr. C'est certain qu'il est difficile simplement oralement de se faire une idée complète de ce qu'est un kamishibai, mais je vais vous lire un paragraphe où les élèves ont habilement intégré l'anglais à leur narration en français.
Oui.
Alors, un requin horrifiant s'approche soudainement et commence à attaquer le sous-marin aux allures d'un immense poisson. Dans ce surdosage d'adrénaline, John prend son courage à 2 mains et tente de faire fuir cet animal. Kiara dit « 3, 2, 1, fight !» Dans une telle panique, John essaie de respirer calmement. Enfin, le requin déguerpit. John revient sans aucune séquelle, mais ce n'est guère le cas du sous-marin. Donc, on voit ici une intégration habile de l'anglais dans le kamishibai. Et ses élèves avaient intégré également de l'ukrainien et du suédois tout au long de leur kamishibai.
Ah oui! Puis, il faut figurer aussi que, bon, là, nous, on a la partie audio, mais ce que les enfants font dans le kamishibai, c'est qu'il y a une partie qui est visible, donc qui est illustrée, qui défile devant nous dans le théâtre, là, ce qui s'appelle le butai, c'est ça, hein?
Exact.
Oui. Est-ce que vos élèves vont présenter leur production? Est-ce que vous avez prévu une célébration ou un événement avec le public?
Assurément qu'on a prévu faire ça. C'est sûr que les élèves sont aussi très motivés au fait qu'ils vont pouvoir le présenter puis le partager ensuite. On va le présenter assurément aux élèves de 5e année qui, dans le fond, vivront, eux, l'année prochaine, le projet. Ça permet déjà de les motiver avec ça puis qu'ils aient une idée de ce qui s'en vient. On veut aussi le partager avec des élèves plus petits. Par exemple, je pense à des classes de première année avec lesquelles on travaille déjà, les collègues et moi présentement, fait que les élèves puissent aller partager, ensuite montrer un projet de grand à des petits. C'est tellement valorisant. Ouais. Donc, c'est sûr qu'on va aller vers ça aussi.
Ouais.
Puis, le Kamishibai, comme il est créé en soi, c'est possible de le déplacer. Donc, on peut l'envoyer à la maison, le partager aux parents. L'enfant peut le lire à ses parents. On veut aussi inviter les parents, peut-être lors de la lecture, soit avec les cinquièmes ou avec les petits, que les parents puissent venir à l'école voir leur enfant le lire et le présenter. Donc, c'est un peu à ça qu'on pensait pour la fin du projet. C'est
très, très bonne idée. J'aimerais ça que vous nous mentionniez d'autres façons qui sont utilisées dans vos classes pour faire vivre la littérature jeunesse dans le contexte plurilingue qui est le vôtre, Émilie.
Oui, mais en fait, en cinquième année, à chaque début de cinquième année, notre premier thème, en fait, de l'année, c'est les histoires familiales. Donc, les élèves ont l'opportunité de créer des textes identitaires sur leur famille. Ils peuvent aussi, en fait, créer des textes dans leur langue maternelle. Ça, c'est vraiment très, très intéressant pour les élèves parce que en cinquième année, on apprend à les connaître puisque nous, on fait du bouclage. Donc, on a nos élèves en cinquième et en sixième.
Oui.
Donc, ça met la table à « OK, je te connais pas encore, mais dans le fond, je vais apprendre à te découvrir à travers les textes identitaires que tu vas créer.
Mm-hmm. »
En fait, aussi, on utilise beaucoup, dans le fond, tout ce qui est combat des livres. Les élèves adorent avoir, dans le fond, deux livres qui doivent justifier une appréciation. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on fait vivre aussi en classe en lien avec la littérature jeunesse. Puis, on faisait aussi vraiment de façon très minutieuse les livres qu'on va leur lire pour diversifier, dans le fond, les auteurs, les illustrations, les lieux, les thèmes, pour qu'ils puissent voir, en fait, une grande variété de ce qui se fait en littérature jeunesse.
D'accord. J'aimerais ça avoir des suggestions, moi, d'albums ou de livres qui conviendraient à d'autres élèves du troisième cycle qui ressemblent aux vôtres ou des livres qui plaisent à vos élèves. Catherine, est-ce que vous en avez quelques-unes?
Oui, assurément. Donc, si on s'intéresse simplement aux kamishibai, on a La soupe Jumu et La cité éternelle, qui sont des kamishibai plurilingues très appréciés des élèves. Et d'ailleurs, La cité éternelle est un kamishibai jeu dont l'élève est le héros.
Ouais.
Donc, ça peut être très bien. Sinon, les élèves sont très fans des romans de la collection noire. Donc, ça pourrait être une bonne suggestion.
De La courte échelle, oui aussi. Hein. Oui, puis de toute façon, je sais que Lucie... Et vous m'en avez envoyé plusieurs des suggestions et je vais les mettre systématiquement sur le site de l'émission pour que les auditeurs puissent aller retrouver tout ça, parce qu'il y en avait vraiment, vraiment une belle, belle suggestion. Et puis aussi, sur le site, les auditeurs vont pouvoir retrouver le lien où est-ce qu'on peut faire commander des butailles, les théâtres, les petits théâtres. Donc, c'est vraiment des ressources super intéressantes que vous nous proposez là. Je vous remercie toutes les trois. Je rappelle que vous êtes à l'école Sainte-Colette. Je vous remercie Émilie Aumet, Catherine Vérardot et Maude La Liberté. On remercie également votre collègue Lucie Saint-Hilaire, qui était dans l'impossibilité de nous joindre aujourd'hui. Merci pour votre engagement, pour votre dynamisme et pour votre ouverture. Au grand plaisir.
Merci beaucoup.
Merci à vous de nous avoir reçus.
Plaisir.
Raconte-moi une histoire.
On écoute maintenant une des chroniques littéraires de « On a tous besoin d'histoire ». Dans une conversation entre elles, Marie Barguirgian et Mathilde Routier nous font découvrir l'un des derniers albums de Marie, « La pyramide de Nola », illustré par Claude K. Dubois et publié chez Deux. On écoute.
Marie, cette chronique est un peu particulière parce que nous parlerons de ton album paru aux éditions 2, « La pyramide de Nola », qui est illustré par le trait doux de Claude K. Dubois. T'aimerais nous résumer un peu l'intrigue?
C'est parti d'une image, en fait, que j'ai eue dans ma tête. Tu sais comme j'aime la mer et la plage. Et j'avais cette petite fille dans ma tête qui creusait le sable. Et puis, qui finalement, tu sais, je sais pas, cette histoire de creuser le sable pour les enfants, c'est quelque chose qui semble très important. À côté d'elle, s'est formée une grande pyramide. Et en fait, ça s'est transformé. C'est presque une démarche artistique qu'a la petite Nola, parce qu'elle initie quelque chose qui va devenir quelque chose qu'elle souhaite fortement pour elle et son nounours, qui s'appelle Max. Et elle veut que ce soit leur pyramide du désert et leur secret.
Nola les regarde faire. Ce n'est pas leur château. C'est sa pyramide du désert. Pour elle et Max, elle a envie de pleurer ou de crier. Elle ne sait pas trop. Ses doigts s'agrippent et se tordent sous son vieux nounours si fort qu'un bras se déchire.
C'est vrai que quand on voit un enfant faire un château sur une plage, en face, on a tout de suite l'idée du château pour un adulte ou des plus grands. Souvent, on a envie d'arriver et puis de vouloir l'aider. Là, je veux rester au niveau de Nola. Elle, Nola, dans sa tête, elle a sa pyramide, elle le décore, elle crée un petit jardin et tout le monde veut s'en mêler. Et en fait, elle n'a pas les moyens de refuser.
Au début, il y a son père qui lui dit « Est-ce que tu veux que je t'aide ?» Et elle lui dit non, et pourtant, il y renchérit.
Ils ne sont pas à l'écoute. C'est des émotions assez incontrôlables, en fait. Parce que, bien sûr qu'elle a envie d'être avec son papa, sa maman, son frère. Elle aime ça, mais en même temps, elle a envie d'être seule dans sa démarche. Alors, ce n'est pas un livre sur la solitude, mais c'est quand même un livre sur le respect d'une solitude dans un groupe, quelque part. Et donc, cette émotion qu'elle ne connaît pas, qui jaillit comme ça, qu'elle comprend peut-être pas elle-même, qu'elle ne maîtrise pas, ça va finir dans une énorme colère qui va sortir beaucoup plus tard dans la journée, mais qui va sortir. Parce que les enfants n'ont pas les moyens de dire vraiment avec les mots. C'est très difficile pour un enfant de refuser que son papa l'aide, ou il y a une ambition familiale qui la dépasse, en fait.
Et tu dis ça d'une façon très, très poétique. Dans l'album, tu dis « Alors, comme si toutes les vagues de la mer sortaient de sa bouche, Nola se met à crier et à dire non et à répondre. » Et c'est beaucoup plus tard, après l'incident, que là, ça ressort et puis qu'elle montre en fait sa frustration et sa tristesse.
C'est ça. Elle a tout gardé en elle, même si elle a boudé, si elle les a envoyés balader au moment de la photo que la maman veut prendre. Mais finalement, ça sort pour un détail infime, quoi. Quand son frère lui dit « Elle boude parce qu'on n'a pas fait le château qu'elle voulait. » Et là, c'est l'emploi du mot château aussi. Je pense que des fois, les enfants avec les mots ont des choses très précises en tête, et elle, c'est une pyramide. Ça n'a rien à voir avec un château.
Et les illustrations tendres et douces de Claude Cadubat accompagnent vraiment parfaitement ton texte. Les personnages et les sauts sont simplement tracés, quasiment comme un croquis. Et je trouve que ça laisse vraiment au jeune lecteur la possibilité de préciser dans sa tête les traits des personnages. Mmh. Et c'est fou comment, avec peu de traits, il y a tellement d'émotions qui sortent.
Ah, vraiment. C'est la grande force de Claude Cadubat. Hein. Elle est incroyable pour ça. C'est vraiment son style, ce travail en croquis comme ça. Elle joue beaucoup des cadrages aussi, se met par exemple à un moment donné, quand elle recommence à creuser le sable pour faire une autre pyramide, on est face à elle, on sent son labeur à vouloir persévérer là-dedans. À un autre moment, on la voit juste de profil, la tête basse, tout dans le langage corporel qu'elle donne à ses personnages est très très expressif. Quelle sensibilité dans le trait.
Je rebondis justement sur ce que tu dis par rapport à l'appropriation du projet de Lola. C'est qu'en fin de soirée, que ses parents en fait prennent la mesure de ce qui s'est passé, qu'elle voulait en fait cet espace juste pour elle et puis qu'elle avait cette idée. Et la construction d'une pyramide, c'est très fatigant. Mais ça vaut la peine car on y découvre des trésors magnifiques et des histoires mystérieuses, continue maman. Oui, c'est beaucoup mieux qu'un château, dit encore papa. Et bien plus original, ajoute maman. Je trouve que c'est vraiment, ça c'est très beau, et en plus tu tournes la page et la double page suivante, on voit Nola à genoux sur son lit, arborant un immense sourire parce qu'elle faisait semblant de dormir, mais en fait elle dormait pas du tout. Et là on voit les bras de ses parents qui sont tendus vers elle, et je trouve que la composition de la page de Claude Cadubat est vraiment très riche, parce que du parent on voit seulement les bras à l'extrémité gauche, et tout le reste de la page c'est comme s'il appartenait à Nola, une Nola tellement fière. Et puis on voit avec les quelques traits d'illustratrice la chambre de Nola. Et puis quand on porte une petite attention, on voit que derrière son nounours Max, la couverture est assez amoncelée en forme de pyramide.
Sur le site de l'émission, vous retrouverez les liens vers le titre mentionné, la page Facebook de On a tous besoin d'histoire et celui qui vous permet de réentendre toutes les chroniques littéraires. Raconte-moi une histoire.
Les actualités littéraires.
d'autres idées de lecture et de sorties littéraires. Pour tous les liens, c'est sur le site de l'émission. Dimanche prochain, le 14 avril, à Marie raconte, je lis « La plus haute branche » d'Hélène Deblois et Émilie Leduc des éditions Monsieur Ed. Une véritable ode à la nature et au cycle de la vie pour souligner le jour de la Terre qui est célébré le 22 avril. Perché sur la plus haute branche de son arbre majestueux, une fillette espionne le voisinage. Elle passe ses journées à imaginer le commencement du monde. Elle veut construire un radeau dans son arbre, mais voilà que son père lui interdit d'y retourner parce que l'arbre malade doit être abattu. On en écoute un extrait. Dès le matin, je cours vers lui. Je m'élance et me hisse sur la première branche. Au-dessus de ma tête, un bouquet d'oiseaux vient se poser. Ça babille, ça gazouille dans le feuillage. On dirait que mon arbre s'est mis à chanter. J'atteins la deuxième branche, puis la troisième. Je sais exactement où poser le pied. Mon arbre, j'en connais chaque bosse, chaque bout d'écorce. Là, dans un creux secret, j'ai découvert un nid abandonné avec quelques plumes et un petit œuf bleu pâle oublié. J'y ai caché une coquille d'escargot et un fossile que grand-père m'a donné. Le 28 février dernier, on annonçait les lauréats des prix des libraires jeunesse du Québec. J'en ai parlé déjà, mais je n'ai pas mentionné qu'un cahier d'activités mettant en vedette les livres jeunesse finalistes et lauréats est offert gratuitement dans toutes les librairies indépendantes membres de l'ALQ. Et je mets le lien sur notre site vers la version numérique du cahier. Félicitations aux talentueuses lauréates des prix BD et prix Illustration Jeunesse décernés lors du Salon du Livre de Trois-Rivières. D'abord, le prix Illustration Jeunesse, petit roman illustré, qui est allé à Orbi pour le Cumulus Machinus de Hugo Monticone, publié à la courte échelle. Ensuite, pour le prix BD Jeune, c'est allé à Émilie Leduc pour La Soupe au lait, publié chez Monsieur Ed. Et le prix Illustration Jeunesse Album est allé à Caroline Lavergne pour Les saumons de la Mitis de Christine Beaulieu, publié aux éditions de La Bagnole. Du 10 au 14 avril 2024 se tiendra le Salon international du livre de Québec. Sous le thème « Sans la lecture, nous n'aurions pas d'imagination », c'est au Centre des congrès de Québec. Du 10 au 14 avril 2024, aussi aura lieu le 37e Festival Québec BD, exposition, ateliers, spectacles et rencontres dans une trentaine de lieux différents aux quatre coins de la ville de Québec. Pour une 20e année, le Festival Québec BD aura pour base d'activité le Salon international du livre de Québec, où le public pourra profiter dans ces espaces de 80 activités mettant à l'honneur le 9e art sous toutes ses formes. Le public pourra découvrir le programme dans l'atelier La Fabrique culturelle et sur la scène Québec BD. Vendredi 12 avril, au Musée de la civilisation, toujours à Québec, aura lieu le dévoilement des lauréats BDIS Causa. Les finalistes pour le prix Yvette Lapointe, désignant le meilleur album jeunesse de langue française, publié par un ou des auteurs canadiens-canadiennes, sont Le tiroir des bas tout seul d'Orbi, des 400 coups, Sir Dodoum, tome 1, Le code du chevalier Roderick, de Mathieu Benoît et Jean-François Laliberté, chez Les Malins, Jaja la nuit, de Valérie Boivin, chez Fonfon, L'univers est un ninja, tome 5, Le livre blanc, d'Alex A, chez Presse Aventure, et J'aime pas ta robe, de Daniel Chaperon et Samuel Quentin, chez Monsieur Ed. Pour connaître tous les finalistes, c'est sur notre site. Réalisation de Québec BD est gratuit pour tous jusqu'au 1er décembre 2024. Se tiendra l'exposition Les imaginaires de la jeunesse, tome 2. C'est du jeudi au dimanche de 13h à 17h au Centre d'interprétation historique de Sainte-Foy, au 28-25 chemin Sainte-Foy à Québec. jeudi le 11 avril de 17h à 19h à la librairie Le Port de Tête à Montréal aura lieu le lancement de Réfléchir pour mourir moins cave de Louis Dugal des éditions de La Bagnole. J'aimerais mentionner, en terminant, quelques nouveautés parues récemment chez Dominique et compagnie. En lien avec le jour de la Terre, L'arbre de Lily de Marie-Louise Gay, grande autrice et illustratrice qui émerveille les enfants avec ses histoires depuis près de 50 ans. L'arbre de Lily est un album d'une grande beauté qui porte un message fort. Nous pouvons chacun à notre échelle apporter notre pierre à l'édifice pour rendre le monde plus vert. Un quatrième conte culotté de Marie Demers, illustré par Mathieu Lampron, La rebelle au bois bruyant, dans un futur lointain, à une époque où les femmes et les hommes peuvent indifféremment enfanter, la reine Raymonde et le roi Bobby s'apprêtent à vivre leur premier papa-couchement. Une fille, Éléanor, bébé gigoteur, hurleur, crieur, naît. On convoque les fées, mais la patronne des fées ne reçoit pas d'invitation. On revisite ici l'histoire originale du conte avec humour. Septième et dernier tome de la série L'école des gars, Ce n'est qu'un au revoir, de Maryse Pickens, est paru en février dernier. Populaire, cette série a offert une voix aux enfants vivant des difficultés à l'école, telles que le manque d'estime de soi, l'hypersensibilité, l'autisme, les troubles d'apprentissage et la différence. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je remercie les invités et les collaborateurs de cet épisode. Françoise Armand, professeure émérite de l'Université de Montréal, Catherine Chiasson de la librairie Le Renard Perché, de l'École Sainte-Colette, Émilie Aumet, Catherine Virardot, Mont de la Liberté et leurs collègues Lucie Saint-Hilaire, Marie Barguirdian et Mathilde Routy, Michel Brûlé pour le soutien à la recherche, Mathieu Tessier en régie, au montage et à la mise en onde, et Jean-Sébastien Laliberté, chef diffusion technique. Je vous souhaite des lectures captivantes et on se retrouve, je le souhaite, dans deux semaines.